écoutez RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince, 16h10 à Antioche.
Michael Pont.
Les antennes de RFI perturbées par un mouvement de grève en France, vous l'entendez. Merci de nous rejoindre pour un rendez-vous des Amériques bousculé aussi par ce qui se passe en Turquie et en Syrie. Ces milliers de vies perdues dans un terrible tremblement de terre. On sera sur place dans un instant. On va voir aussi comment l'événement est traité dans la presse des Amériques. Pour le reste, on va revenir sur l'installation du Haut Conseil à la Transition hier en Haïti, outil au service du retour à l'ordre démocratique selon le gouvernement. Et puis, on parlera du discours sur l'état de l'union de Joe Biden ce soir aux États-Unis. Tout ça, ce sera avant de vous retrouver Benoît Ferrand avec une drôle de garde à vue en Guadeloupe.
La garde à vue de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats et de son épouse, elle-même avocate.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous. Dans un froid glacial, les recherches se poursuivent dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie, au lendemain donc de ce puissant séisme qui a fait au dernier bilan plus de 5000 morts. Un macabre décompte qui ne cesse d'augmenter d'heure en heure alors que l'aide internationale commence à arriver sur place. Tout près de la frontière syrienne, dans la ville turque d'Antioche, on retrouve Manon Chaplin, l'une des envoyées spéciales de RFI. Manon, vous venez d'arriver et c'est un paysage de désolation autour de vous.
Oui, les dégâts matériels sont très nombreux, visibles à des kilomètres à la ronde autour de la ville. La question à se poser est moins le nombre de bâtiments écroulés, mais plutôt combien sont encore debout. La ville manque de tout, d'eau, d'électricité, mais surtout de secours. Toutes les familles avec qui nous avons discuté en appellent à l'aide internationale. Il y a surtout cette avenue, Fatih Cadesi, complètement inaccessible pour les secours. Des immeubles effondrés bloquent la route. Ce sont les habitants eux-mêmes qui partent à la recherche des corps sous les décombres, même si cela peut se révéler dangereux car ils n'ont aucune formation. Ces sauvetages ont tout de même permis à de nombreuses familles de se retrouver. Un père que nous avons raccompagné de l'hôpital a retrouvé sa fille en revenant sur les lieux du sinistre. Il y a aussi cette famille de 4 personnes, toutes sorties vivantes malgré de graves blessures. Ou encore, juste avant que l'on se parle, cet homme qui entendait depuis plus de 32 heures sa femme sous les décombres et qui a enfin pu la serrer dans ses bras.
Manon Chaplin avec nous à Antioche, envoyée spéciale de RFI dans le sud de la Turquie. Merci, le président Erdogan vient de déclarer l'état d'urgence dans les 10 provinces touchées par le séisme. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Évidemment, tout le monde regarde aujourd'hui vers la Syrie et la Turquie. 45 pays en tout ont proposé leur aide. La presse américaine y revient.
Et le bilan du tremblement de terre augmente. Titre en une, le Wall Street Journal. Une région meurtrie creuse pour trouver des survivants. Titre toujours en une, le New York Times, qui publie 3 photos de sauveteurs s'affairant de jour comme de nuit sur des montagnes de décombres. Une des photos montre un enfant allongé sur une civière qui passe de main en main. Il reste peu de temps pour trouver des survivants, écrit le journal. Typiquement, cela ne se fait que dans les 3 jours qui suivent un tremblement de terre, explique un expert. 16 000 sauveteurs ont été déployés en Turquie et ils doivent travailler dans un froid glacial. Le président Biden, écrit le Wall Street Journal, envoie des équipes pour aider les autorités à faire face aux retombées du séisme, soutenir la recherche de survivants et aider les blessés et les déplacés.
Et Christophe, l'Amérique latine, elle aussi, hein, envoie de l'aide.
Le journal mexicain Excelsior écrit que le pays envoie un avion des forces aériennes avec à son bord des sauveteurs et une équipe spécialisée. Toute l'aide nécessaire doit aussi venir du Salvador, promesse du président Nayib Bukele dans Diario Latino. Le journal brésilien Estadão de São Paulo précise que plus largement, l'aide internationale devra arriver dans les 2 pays, Syrie et Turquie, mardi. Car il ne faut pas oublier la Syrie. Estadão a interrogé Sébastien Gay, chef de mission pour Médecins sans frontières dans le pays. Il explique que les établissements de santé du nord de la Syrie sont débordés. Le personnel médical travaille 24 heures sur 24 pour répondre au grand nombre de blessés.
Et je vous rappelle ce terrible bilan. Donc déjà plus de 5000 morts. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce tremblement de terre. Situation à suivre aussi sur RFI.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Pour le pays, pour les ancêtres.
C'est en chanson et face à un parterre d'officiels, du gouvernement et de diplomates que cela a commencé hier. À Port-au-Prince, Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, a installé les 3 membres du Haut Conseil de Transition après avoir, je cite la presse, unilatéralement rendu public leur nom mi-janvier au journal officiel. En dépit des réprobations, il s'agit de Mirlande Maniga, ancienne première dame et ancienne candidate à l'élection présidentielle, Laurent Saint-Cyr, qui représentera au sein de ce HCT le secteur privé, et Calixte Fleuridor, président de la Fédération protestante sortent d'Haïti, Christophe.
Oui, enfin installé, écrit le Nouvelliste. Le journal rappelle que le Haut Conseil de la Transition a été mis en place par l'accord du 21 décembre, financé et porté à bout de bras par la communauté internationale. Trois grands chantiers l'attendent, la révision de la Constitution, le renforcement du système judiciaire et la formation du Conseil électoral provisoire. Ceux qui ne sont pas à bord peuvent rejoindre le train en marche ou faire de l'opposition. Dans les deux cas, le tic-tac est lancé, écrit Franz Duval dans son éditorial.
Cet accord du 21 décembre appelé consensus national, et on est très loin en réalité du consensus. Mirlande Maniga, donc membre de CHCT-LEC, alors hier, c'est un appel au rassemblement qu'elle a lancé.
Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste. Je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libre, honnête et inclusive. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de Transition l'espace que vous souhaitez.
Ariel Henry, le Premier ministre, voit lui dans ce Haut Conseil de la Transition le commencement de la fin du dysfonctionnement des institutions démocratiques en Haïti, Christophe.
Mais le National précise que lors de ce discours qu'il a prononcé en installant le HCT dans les locaux du ministère du Commerce et de l'Industrie, Ariel Henry a reconnu que la complexité de la conjoncture ne favorise pas la réalisation d'élections dans l'immédiat.
D'où un énième appel à l'aide à la communauté internationale. On écoute Ariel Henry.
Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale. Et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser.
Ariel Henry, hier, rapport au Prince, où nous attend Godson Pierre, le rédacteur en chef du site Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Au plan national, dites-nous quelles sont les réactions à l'installation de ce HCT et de tout ce qui s'est dit hier qu'on vient d'entendre.
Peu de réactions pour le moment, Michael. Parmi les alliés du gouvernement, le secteur démocratique populaire applaudit l'installation du HCT. C'est un pas dans la bonne direction, écrit l'avocat André Michel, porte-parole du SDP sur son compte Twitter, le SDP, qui invite le HCT et le gouvernement à se mettre au travail pour compléter la Cour de cassation, monter le Conseil électoral provisoire et créer un environnement propice à la révision constitutionnelle et aux élections. La méfiance ne semble pas être dissipée parmi les secteurs critiques à propos de la mise en place du HCT. Le parti Racine Campepla, membre du mouvement de Montana, maintient que le HCT ne jouit pas de l'autonomie nécessaire à la réalisation de sa mission, ainsi que l'exprime l'économiste Camille Chalmers, porte-parole de cette formation politique.
La communauté internationale, elle, en revanche, salue bien l'installation des membres de ce HCT. C'est d'ailleurs à la une d'Alter Press.
Un pas dans la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre 2022, estime dans un tweet le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. Félicitations du Canada. Maintenant débute l'important travail de mettre en œuvre la feuille de route pour les élections, selon l'ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière. Même son de cloche de la France qui souhaite les élections justes, alors que, quand même, on peut le souligner, le défi sécuritaire persiste.
La sécurité, Godson, à ce sujet, justement, des opérations de police sont menées à l'est de la capitale. Qu'est-ce que cela donne ?
48 heures après le début de ces opérations, aucun bilan n'a encore été fourni par la police nationale d'Haïti. Depuis le 27 janvier dernier, vendredi, la police a annoncé une opération baptisée Tornade 1 pour s'attaquer aux bandits armés. On constate que ces derniers ont depuis intensifié leur présence dans les communautés plus à l'est, comme Kinskoff et Fermat, suivant divers témoignages.
Une situation que va venir constater de ses yeux le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Il est attendu à compter de demain en Haïti pour une visite officielle avec au programme des entretiens avec des responsables politiques, judiciaires et des représentants d'organisations de la société civile. Merci beaucoup Godson Pierre avec nous de Port-au-Prince.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
8h20, tout pile à Quito. Christophe Paget, je reviens à vous. On commence à y voir un petit peu plus clair en Équateur après les élections locales et le référendum de dimanche.
Alors, selon les résultats qui ne sont pas tous connus, c'est un grand coup pour le PSC, le Parti social chrétien allié au président Lasso, écrit à l'Universo. Le mouvement Révolution citoyenne qui soutient l'ancien président de gauche, Rafael Correa, a remporté, au nez à sa barbe, les mérites de la capitale Quito de peu, avec 25%, précise le journal, et de la deuxième ville du pays, le port de Guayaquil, plus nettement, avec presque 40%. Le coréisme se renforce dans 7 provinces, renchérit El Malcolio. Le peuple équatorien a favorisé avec son vote le coréisme et ses collaborateurs qui, rappelle El Comercio, ont été nombreux à être condamnés pour corruption. D'un autre côté, dans le référendum, il s'est opposé à l'extradition des trafiquants de drogue. L'éditorialiste estime que les partis politiques ont perdu leur base idéologique. Aujourd'hui, priment les intérêts élitistes, l'ambition, la vanité. L'époque où les idéaux unifiaient toutes les strates sociales ont disparu. Le président Lasso, repris par Expresso, parle lui d'un appel du peuple au gouvernement et affirme que le bien-être du futur de l'Équateur ne passait pas et ne passe pas exclusivement par le référendum qu'il aurait donc perdu.
Christophe Paget, votre revue de presse à lire en intégralité sur RFI.fr.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On prend un peu d'avance maintenant sur l'actualité des États-Unis, puisque c'est ce soir, la nuit prochaine pour nous, que Joe Biden tiendra devant les élus du Congrès son discours sur l'état de l'Union. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Rituel majeur de la vie politique américaine, ce discours en prime time devant les élus des deux chambres, une sorte de bilan et perspective qui s'adresse aussi, Stéphanie, aux Américains qui seront des millions derrière leur télé ce soir.
Oui, et le président va certainement profiter de cette forte audience pour vanter son bilan parce que malgré les difficultés dans ses propres rangs, Joe Biden a réussi à passer 3 lois majeures durant ses 2 premières années de mandat. Un texte sur les microprocesseurs, son plan de rénovation des infrastructures qui a été, rappelez-vous, voté au Sénat avec l'aide de quelques élus républicains et enfin son plan historique sur le climat, l'Inflation Reduction Act. De plus, l'économie américaine se porte plutôt bien malgré l'inflation. Le taux de chômage est au plus bas avec seulement 3,5%. Le président ne devrait donc pas avoir de mal à trouver des bonnes nouvelles pour le début de son discours.
Mais curieusement, Stéphanie, malgré ces bonnes nouvelles économiques, eh bien les Américains n'ont pas l'impression que leur quotidien s'améliore.
Absolument. Selon un sondage du Washington Post qui a été publié hier, 62% d'entre eux estiment que Joe Biden n'a que peu ou rien accompli au cours de sa présidence. Et c'est un problème pour le président qui, selon toute vraisemblance, va briguer un deuxième mandat en 2024 et devrait en faire l'annonce dans les jours à venir. Antoine Josignaca est professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York à Buffalo.
S'il veut briguer un deuxième mandat, il doit s'assurer de rallier, si vous voulez, tous les électeurs démocrates ainsi que les indépendants. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il va aussi parler d'enjeux comme par exemple à l'immigration et la sécurité dans les grandes villes, l'avortement aussi, donc des enjeux qui, on l'a vu lors de l'élection de mi-mandat en 2022, ont quand même été des bons enjeux pour les démocrates.
Le professeur Antoine Josignaca, au-delà de ces thèmes donc apparemment faciles, hein, Stéphanie, pour les démocrates, 2 autres sujets de politique intérieure sont en fait venus s'imposer là dernièrement et Joe Biden devrait les aborder dans son discours ce soir.
Oui, le premier thème, Michael, c'est le relèvement du plafond de la dette. Contrairement à l'année dernière, le Congrès n'est plus contrôlé par les seuls démocrates. À l'écran, assis derrière Joe Biden, on verra ce soir Kevin McCarthy. Le nouveau chef de la majorité républicaine à la Chambre a déjà annoncé la couleur. Un compromis sur le budget n'est possible que si les républicains obtiennent de fortes réductions des dépenses de l'État fédéral. L'autre sujet, c'est la réforme de la police, bien sûr. Ce dossier douloureux est revenu sur le devant de la scène avec le terrible meurtre de l'Afro-américain Tyre Nichols par 5 policiers noirs à Memphis, dans l'État de Tennessee.
Je crois qu'il va demander encore une fois au Congrès de s'adresser à cet enjeu, de peut-être raviver un projet de loi qui avait été abandonné l'an dernier au Sénat sur une réforme des standards nationaux sur l'utilisation de la force par la police. Donc, je pense que ça va être un des grands enjeux qu'il va aborder. D'ailleurs, la famille de la victime sera au Congrès pour assister à ce discours comme invité d'honneur du président.
Grand jeu donc sur le plan intérieur, mais évidemment, Stéphanie, il sera aussi ce soir question dans ce discours sur l'état de l'Union de politique étrangère.
Oui, on se souvient que l'année dernière, la guerre en Ukraine qui venait juste d'éclater fut l'invité surprise en quelque sorte du discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Et cette année, c'est un ballon espion chinois qui vient jouer les troubles faits. Mais au final, estime Martin Cancé, directeur adjoint du German Marshall Fund à Paris, aussi bien la guerre en Ukraine que les tensions avec la Chine permettent à Joe Biden de renforcer le récit qu'il a construit sur sa politique étrangère.
Qui est un récit d'opposition au régime autocratique. C'est une forme de concept narratif que les démocraties aujourd'hui devaient s'unir face à un modèle porté par la Russie et la Chine, autocratique et fondamentalement dangereux. Et Joe Biden, dès la campagne de 2020 pour la présidence, s'était vraiment présenté comme celui qui réunirait les alliés des partenaires démocratiques des États-Unis pour empêcher à ce que ces pays autoritaires et hostiles ne changent l'ordre international et les règles du jeu à l'échelle mondiale.
Et donc, telle sera encore probablement la ligne de défense de Joe Biden ce soir contre les Républicains, qu'il accuse notamment de faiblesse face à la Chine.
Le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden que l'on analysera, nous, demain, dans notre rendez-vous avec notre invité Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, dossier aujourd'hui signé Stéphanie Schuller. Merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
En Guadeloupe, un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats et son épouse sont en garde à vue depuis hier matin.
Oui, son épouse, elle aussi, avocate. Les deux juristes ont été entendus toute la journée dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie à Pointe-à-Pitre. Leur garde à vue se poursuit d'ailleurs ce matin. Éric Stimfling.
On ne parle toujours pas, c'est par cette formule lapidaire lâchée au beau milieu d'un parking que maître Philippe Edmond Mariette a clôturé la première journée de garde à vue de son client. Le ténor du barreau martiniquais a ensuite rejoint son véhicule en compagnie de maître Marie Culin, une avocate parisienne en charge, elle, de défendre les intérêts de Virginie Dubois. Celui qui a été par deux fois bâtonnier du barreau de la Guadeloupe et son épouse ont donc passé toute la journée, vous l'avez dit, dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie située au Morne-Miquel à Pointe-à-Pitre. Le couple d'avocats est en effet entendu dans le cadre d'une information judiciaire lancée voilà plusieurs mois par la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France, pour des faits présumés d'escroquerie. Selon des sources concordantes, plusieurs dizaines de clients du cabinet auraient déposé plainte après avoir été floués de sommes importantes auxquelles ils avaient droit au titre des indemnisations versées par le fonds de garantie des victimes. Toujours selon ces mêmes sources, le préjudice financier dépasserait plusieurs centaines de milliers d'euros et ce n'est là qu'une première estimation, car désormais l'affaire est publique et d'autres victimes pourraient en effet se faire connaître auprès des enquêteurs. Autant dire de nouvelles questions à venir.
Et la formule traditionnelle, affaire à suivre. Un tout autre sujet, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la plateforme régionale d'oncologie de la Martinique accueillait ce week-end les visiteurs dans un village de la santé, aux Trois-Îlets. Des personnalités du monde médical ont été mises à l'honneur, comme par exemple le docteur Escarment, ancien chef de service au CHU de la Martinique et cancérologue. Alors sur la problématique délicate, on le sait, du nombre et de la cause des cancers dans l'île des Antilles, il n'était pas inintéressant de recueillir son avis de spécialiste. Écoutez-le au micro de Xavier Chevalier.
Il y a moins de cancers en Martinique qu'en France, toute proportion gardée. Par contre, il y a des cancers plus fréquents. C'est le cancer de la prostate, c'est le cancer de l'estomac, c'est les myélomes, les cancers des os. Mais globalement, il y a moins de cancers qu'en France, contrairement à ce que beaucoup de gens croient.
Il y a des aspects génétiques. C'est les Afro-Caribéens et les Afro-Américains font plus de cancers prostate et les Asiatiques moins. Un aspect aussi, effectivement, environnemental avec le chlordécone qui a fait beaucoup de mal. Le cancer, on en parle toute l'année. On en parle avec Octobre rose, on en parle. Mais il faut en parler beaucoup, bien sûr, parce que c'est aujourd'hui la maladie qui tue, quoi.
À demain, Mickaël. Bon après-midi.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques sur les antennes de RFI perturbées par le mouvement de grève à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites en France. Antenne perturbée encore cet après-midi. Rendez-vous notamment ce soir, par contre, à partir de 17h10 TU pour décryptage avec Anne Corpée.